Bonjour, vous êtes bien dans l'émission Underscore sur le 99.2 de Radio Méga. La fin d'année arrivant, c'est l'occasion pour vous de vous rappeler que vous pouvez contribuer en donnant. Installez-vous et écoutez.
Bonjour Méméman.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Bonjour, coucou Cécile, Doudou. Coucou Méméman.
Bonjour les auditeurs. Et oui, cette semaine, elle a raison, c'est la fin d'année, alors un peu, allez, il faut contribuer.
Ouais, bah alors je vais pas vous parler de sous-sous, mais c'est bien, si vous avez des sous, vous pouvez aussi donner.
Oui, parce que bah, fin d'année fiscale, voilà.
Ouais, hein, c'est compliqué pour tout le monde.
Mais tout de suite un peu d'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a?
GoogL, un site pour recenser les bourdes de Google. Il en existait déjà un pour Facebook, Death in the Last Facebook Scandal.
Ouais. Facebook et Microsoft Edge changent de logo. L'entreprise Facebook, qui détient Facebook, le réseau social, mais aussi Instagram et WhatsApp, veut donc marquer la différence. Quant à Edge, il veut se distancer du logo actuel, bien trop proche de celui d'Internet Explorer. Mais du coup, maintenant, il ressemble au nouveau logo de Firefox, juste avec des couleurs
génial,
différentes. C'est bien la peine, quoi.
Microsoft veut contribuer à Java et devient membre d'OpenJDK.
AV1 est utilisable. AV1 est un nouveau codec aux performances rivalisant H avec H265. Poussé par Mozilla et Videolan, il a l'avantage de pouvoir être utilisé sur le web dans un conteneur WebM et est déjà supporté par la majorité des navigateurs.
Selon OVH, les ministères français ignorent que leurs données sont hébergées sur des serveurs américains. Oh, oh, c'est étonnant!
Jana Yougom, le premier quotidien à n'utiliser que du logiciel libre. Ce journal papier du sud de l'Inde, ayant 100 000 lecteurs, vient de passer à Scribus, Ubuntu et KDE. Voulant se débarrasser de l'antique Adobe PageMaker qu'ils utilisaient jusqu'ici et qui ne supportait même pas Unicode, ils ont réalisé que son remplaçant InDesign n'était disponible qu'avec des licences en location. Ils ont au passage créé trois polices de caractères libres avec les caractères nécessaires au Malayalam.
Le créateur de Python prend sa retraite. Guido van Rossum, à 63 ans, a décidé de prendre sa retraite. Ça a été une aventure incroyable.
Incroyable.
Incroyable. Ah non, ça c'était il y a 2 semaines. La DINZIC devient la DINUM et perd certaines missions au passage. La DINZIC, Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication, change de nom et devient la Direction Interministérielle du Numérique. Mais visiblement, il n'y a pas que le nom qui change. Les organisations syndicales ont dénoncé le manque de concertation et l'abandon de certaines missions historiques.
Petite pause et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour sur comment contribuer.
Gimme chocolate.
On va te retirer le micro.
Oui. Manger du chocolat. Tu rapproches un peu le micro pour le...
C'est une première mondiale, d'accord ? Je pense que ce sera une dernière mondiale aussi, évidemment. Je pense que vous n'avez jamais entendu du ACDC ou du ukulélé, c'est normal. Vous allez comprendre pourquoi. T'as installé un paquet, mais tu sais pas comment le démarrer. Fichier d'init. T'es vraiment complètement paumé. Lis ce putain de manuel. 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 T'as pas trouvé le bouton d'accès à la configuration. Comme un couillon, le mode de démonstration. Lis ce putain manuel. Lis ce putain
manuel.
lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel.
T'as essayé d'exécuter du code Python dans ton PHP. T'as inséré du JavaScript à l'intérieur de ta base de données.
Lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel.
Lis ce
putain de manuel. Lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel. Lis ce putain de manuel. Magazolo.
Génial.
Eh, donc c'était Lis ce putain de manuel. Donc c'était une reprise d'ACDC.
De Clément Oudot.
Ouais, ouais, ouais. On avait déjà passé, mais bon, vu que ça collait bien au sujet.
Mais oui, et puis c'est en clôture de sa conférence, le guide du connard du logiciel libre, voilà. Qui était à Paris Open Source Summit 2017.
Alors justement, pour ceux qui ne lisent pas ce de manuel, j'ai souhaité aborder ce sujet depuis un moment, et l'arrivée des contributeurs à Grenoble m'a décidé. Et si ça intéresse des gens qu'on en fasse à Valence, bah dites-le nous, on fera suivre.
Mais oui.
Et oh, coïncidence, demain c'est aussi le début du Google Coding. Java donc parler de contribution. Enfin, si c'est à Java que vous voulez contribuer, c'est à OpenJDK qu'il faut parler, hein, comme Microsoft. Donc pourquoi contribuer ? Bah parce que si quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Si c'est libre, faut le faire vivre. Donc une des façons, bah, c'est de donner des sous, hein, ou payer les développeurs directement. Mais on n'a pas forcément les moyens nous-mêmes. Par contre, on peut trouver un peu de temps pour aider un projet différemment. Il y a mille et une façons de contribuer, suivant le projet, ses propres compétences, son temps disponible. Même si vous ne savez pas coder, vous pouvez donner votre aide. Par exemple, en relisant la documentation, en essayant d'installer et d'utiliser le logiciel pour trouver des bugs, ou même juste une situation où la documentation n'est pas claire sur ce qu'il convient de faire, ou bien comment faire quelque chose. Ces temps-ci, pas mal de projets s'intéressent au design, qui souvent est carrément oublié dans le libre, il faut le dire, car les codeurs font en premier lieu le logiciel pour eux-mêmes, et donc en fonction de leurs propres besoins. Disons aussi que les designers n'ont pas vraiment non plus la culture du libre, ou alors quand ils veulent contribuer, bah, ils sont juste ignorés. Heureusement ça change, et c'est bien car l'ergonomie, la facilité d'utilisation d'un outil prime pour de nombreuses personnes sur son outil réel, sur son utilité réelle, ou même encore plus sur son éthique. C'est pour ça que, ben voilà, autrement, on utiliserait tous avec, GNU Linux, Cirx,
oui.
Au lieu de Google, GNU PG, enfin bon, voilà. On va surtout ici parler de contribution au logiciel, mais certaines choses s'appliquent aussi à Wikipédia ou OpenStreetMap.
Alors, comment on fait ?
Eh ben, RTFM. Hein ? Ah non, quoi ?
Pas RTFM.
Non, lis ce gentil manuel. Ah oui, bon, on a dit qu'on arrêtait avec les RTFM.
Oui, c'est RTFM, c'est Read the Fine Manual.
Voilà. Bah c'est vrai qu'à une époque, on reprochait aux développeurs de libre une certaine arrogance. Lorsqu'il y a une question déjà posée 10 fois, ils répondaient RTFM. Ceci dit, il faut vraiment de la patience aussi pour expliquer une 10e fois la même chose. Mais c'est à ce prix-là qu'on évite de faire fuir les gens. Donc, comme ça a été dit, on lit la doc. Enfin, au moins, on essaie de trouver la documentation du projet, s'il y a des informations sur comment contribuer. Certains projets ont même un guide du contributeur. C'est le cas de communecté.org.
Ouais, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas.
Eh ouais, alors surtout pour les projets récents et assez petits, souvent on se contente de déposer le code sur une forge logicielle, typiquement GitHub, hein, c'est à la mode, qui certes a permis une certaine standardisation et facilitation du processus de contribution, mais du coup ça fait croire que c'est toujours aussi simple que 3 clics et que c'est toujours comme ça qu'il faut faire, et c'est pas vrai du tout. Ensuite, il peut être intéressant de trouver le canal de communication privilégié des développeurs, parce que tout le monde n'aime pas forcément WhatsApp. Donc ça peut être IRC, hein. Si, c'est encore souvent le cas, y compris pour Framasoft, hein, aussi, mais pas pour rapporter des bugs, hein. Normalement, il y a un truc pour ça. Ou des trucs plus exotiques. Certains préfèrent le mail encore, hein. Mais certains projets sur GitHub préfèrent ne pas utiliser les pull requests, alors que c'est censé être la façon de faire sur GitHub. En effet, chacun a sa propre méthode pour valider les contributions. Parfois, il y a plusieurs étages avant d'arriver en amont. Vous entendrez souvent parler d'upstream, ça veut dire ça, hein, c'est en amont. Ainsi, pour arriver jusqu'à la branche principale de Linus Torvalds, on passe par les mainteneurs de la partie du noyau qui correspond et qui vont d'abord vérifier eux-mêmes vos différents patchs. Patch, en anglais, ça veut dire rustine. Bien sûr, on vous redirigera toujours vers un canal plus approprié, mais c'est considéré comme une politesse de se documenter avant de poser une question qui semblera évidente au développeur, et donc lui faire perdre du temps, ou d'envoyer un patch directement à l'auteur, alors que sur le site, c'est bien marqué explicitement qu'il faut l'envoyer d'abord à la liste de diffusion pour que les autres le voient, ou alors directement au mainteneur de la partie concernée.
Mais non, mais pas du tout, hein. Moi je suis utilisateur, hein. Je veux qu'on réponde à ma question. Hein.
Ah bah oui, mais le livre, voilà, c'est pas un truc où on vend, et puis après il y a du service après-vente, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Certains projets vous demanderont avant toute chose, et même pour un changement de deux lignes, de signer un papier, un accord de contribution, qui en général autorise l'auteur principal à faire ce qu'il veut de vos patchs, y compris changer la licence. C'est souvent le cas pour des projets gérés par des entreprises, par exemple VirtualBox ou d'autres projets de Sun rachetés par Oracle.
Alors, t'as un ticket ?
Pour suivre l'évolution d'un problème, on utilise en général un système de suivi de bugs, ou de tickets, où chaque cas est décrit dans un ticket, donc, dont l'état peut changer en fonction de l'avancement de la correction. Typiquement, le ticket est assigné à un développeur qui le prend en charge, puis demande que l'on teste le correctif qu'il a implémenté, et enfin, on ferme le ticket avec une résolution qui peut varier de « fixed », ça veut dire « ouais, c'est bon, c'est corrigé », à « won't fix », parce qu'en fait, bof, on s'en fout. Parfois, un bug revient alors qu'on pensait l'avoir éradiqué. Alors, il s'agit d'une régression. Plutôt que d'ouvrir à nouveau un nouveau ticket, si on est sûr qu'il s'agit du même bug, hein, s'il y a les mêmes conditions, puis ça donne la même erreur, eh ben on préfère ouvrir le ticket précédent. On peut aussi utiliser un ticket pour proposer une fonctionnalité qu'on a déjà écrite en joignant plusieurs patchs.
S'il y a des régressions, c'est qu'il n'y a pas de test unitaire, c'est dégueulasse.
Bah oui, mais les tests, personne n'en fait, hein, c'est bien connu. Et ça, normalement, c'est aux développeurs d'écrire des tests, mais bon, c'est pas toujours évident.
Tout à fait.
Les tickets ne servent pas que pour les bugs, ils permettent aussi de proposer des features supplémentaires, même si ceux-ci n'ont pas la même priorité. Ça permet de savoir que beaucoup de monde en a besoin et si quelqu'un a déjà prévu de travailler dessus. Et puis on peut aussi traduire, si vous parlez un peu anglais, vous pouvez traduire un logiciel qui n'est qu'en anglais et le traduire en français, ça peut aider d'autres personnes. Donc comme pour le code, hein, chaque projet a ses outils et ses méthodes, en général c'est expliqué quelque part dans l'iDoc, mais souvent en anglais, c'est vrai. Donc le principe général, on traduit des morceaux de phrases hein, en respectant certaines règles. Alors souvent, c'est des morceaux de phrases qui sont utilisés dans le code et donc il y a des marqueurs un peu bizarroïdes qui disent que en fait, ça va être remplacé par le nombre d'octets ou le nombre de machins. Et parfois, il faut respecter l'ordre de ces marqueurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire une autre phrase en mettant les marqueurs dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc il faut reformuler la phrase. Certains projets organisent des événements de traduction avec des personnes du monde entier qui contribuent en même temps, comme le WordPress Translation Day. D'ailleurs, il y a un groupe local d'utilisateurs de WordPress en Dromardèche.
Wow,
si vous utilisez, ça peut vous intéresser.
Alors, le code.
Ouais, alors on a dit qu'il n'y avait pas que le code justement. Bon, si vous voulez coder, bon, on peut en parler, mais peut-être faudra en parler mieux une autre fois.
Ah, mais je suis chaud, ouais, je vais coder.
Voilà. Encore une fois, ça dépend des projets, hein, si on n'a pas tous les mêmes outils. En général, sauf si l'auteur se contente de publier des fichiers zip, hein, ça existe encore ? Si, j'en connais. On utilise un système de gestion de version.
Alors, ouais, mais moi, je veux coder en WinDev.
Hein, c'est quoi ça ? Non, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas.
Le plus à la mode est Git, qui a de nombreux avantages, mais quelques inconvénients. Alors, un avantage, c'est d'avoir tout l'historique. Par contre, la syntaxe, c'est un peu cryptique et il faut parfois savoir où chercher les trucs. Quoi. Mais bon, c'est très puissant et ça permet de plein de trucs. On peut même utiliser Git pour des projets qui n'utilisent pas Git, qui utilisent Subversion ou CVS. C'est possible et du coup, ça peut permettre de travailler plus efficacement. Alors, habituellement, du coup, on clone le projet sur son disque dur. Donc, on fait une copie avec Git. On commence par écrire un code qui fonctionne. Puis quand ça fonctionne, on fait un commit. Ouais, commit. Éventuellement sur une autre branche, hein, que celle par défaut, c'est mieux. Et puis quand on est content du code, soit on extrait des patchs pour les attacher à un ticket, comme on a dit, soit on pousse ces modifications sur un fork, c'est-à-dire une copie d'un projet, mais qu'on peut modifier la copie et pas l'original. Et puis après, on fait un pull request. En fait, on devrait plutôt parler de merge request, c'est ce que utilise GitLab, par exemple. Mais voilà. Mais il faudra qu'on revienne là-dessus.
Je pense, sur GitHub, ça serait correct. Ouais.
Après, y a des programmes, alors là on parle pas de logiciels, hein, mais de programmes d'événements pour des publics spécifiques, donc certaines structures qui proposent des programmes pour certains catégories de personnes pour les aider à contribuer. Chez Google, par exemple, il y a le GSOC, donc Google Summer of Code, permettant à des étudiants de passer un été à ajouter une fonctionnalité à un logiciel et d'être payés un petit peu en échange. Ils ont depuis une dizaine d'années aussi le GCI, le Google Code In, qui lui s'intéresse aux élèves de 13 à 17 ans pour leur donner une première approche de la contribution avec un système de tâches à accomplir, comme rédiger une documentation, tester, trouver des bugs, etc., réaliser une petite vidéo expliquant le projet, ou même faire du code et corriger certains bugs faciles. Et comme j'ai dit, ça commence demain, donc si vous répondez aux critères, vous avez entre 13 et 17 ans, vous êtes scolarisé, bah, ça peut vous intéresser. Vous pouvez vous inscrire après demain, hein, c'est pas obligatoire de s'inscrire le 2. Et cette année, il y a 29 organisations qui proposent des tâches à résoudre. Le projet Haiku participe depuis le début à GCI et régulièrement à GSOC, mais pas tous les ans parce qu'en fait ça prend du temps en fait pour nous développeurs parce que bah il faut suivre les étudiants, il faut s'assurer que ils fassent ce qu'on leur demande et puis il faut répondre à leurs questions et tout. Et tout ce temps-là, c'est du temps qu'on passe pas nous à écrire le code directement. Pour GCI, il faut préparer les tâches en triant les bugs existants, en disant celui-là, ouais, si celui-là, ça doit être faisable pour un étudiant de le résoudre et tout. Et puis bah il faut les suivre, il faut vérifier qu'ils ont bien corrigé le bug et tout. Donc ça prend du temps. Alors depuis cette année, il existe aussi Seasons of Docs, donc de septembre à novembre, donc ça vient de se terminer, qui permet à des adultes, cette fois-ci, de contribuer à la documentation de projet, qui est souvent aussi délaissée, hein, c'est vrai. Donc ça, c'est encore un truc de Google. Par contre, il n'y a pas que Google. Même si on aime détester Google par ici, avec tout ça, en fait, il redonne un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, de tout ce que le logiciel libre leur apporte. Mais bon, bien sûr, pour Google, c'est aussi un moyen de faire de la com et probablement, au passage, de détecter de futurs employés. Mais ça permet tout de même aux projets participants d'obtenir des contributions, même parfois des contributeurs réguliers, car ils aiment le projet, et du coup ils reviennent pour contribuer directement. Il y a d'autres programmes comme Outreachy du Software Freedom Conservancy qui propose des sortes de stages de 3 mois relativement bien payés pour favoriser en fait les minorités qui sont souvent sous-représentées dans les développeurs du libre, peut-être même plus que dans l'informatique en général. Et puis bah, il y a encore un truc, c'est les contributeliers. Donc dans le cadre de la campagne Contributopia de Framasoft, les contributeliers sont nés d'une volonté de faire rencontrer les gens physiquement. Lors de ces événements, on vous guide pour trouver des activités suivant vos compétences. Cela va de la rédaction de documentation de communication, tutoriels et autres, à la traduction, au design et bien sûr au code. Sans parler des tests, hein. Ah, on a dit qu'il fallait en parler quand même.
Mais oui.
Oui, oui. Et justement, si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est l'occasion de trouver des intermédiaires pour vous aider à aider le libre. Si vous utilisez un logiciel libre, mais qu'il vous manque une fonctionnalité, bah, venez en discuter et comprendre comment créer un ticket pour exprimer votre besoin au développeur. Comme on l'a dit, hein, s'il y a un ticket qui existe et qu'il y a 10 personnes qui disent « Ah oui, moi aussi, j'ai besoin de ça », le développeur il va savoir que ça peut intéresser 10 personnes.
Et oui.
Ça peut être aussi l'occasion de découvrir des associations locales, hein, des chatons, des guildes, des hackerspace, qui utilisent aussi du libre, et donc de les rejoindre.
Merci Emman pour tes explications. C'était certes un peu long, mais c'était très intéressant.
J'espère que ça vous a donné envie.
Mais oui.
Oh oui.
Petite pause, on se retrouve après pour l'agenda. Regardez combien on est. À combien on est. Ça coule. un peu de Kallax avec Dream.
Ouais.
Je voulais juste revenir sur contribuer. Par exemple, vous savez pas coder, vous savez pas faire des traductions, mais vous savez parler, vous savez présenter. Pourquoi pas, quand on est sur des salons du livre, de pouvoir tenir un stand.
Oui,
c'est important
oui,
de pouvoir communiquer
si
aussi.
S'il y a un logiciel que vous aimez bien, que vous utilisez, bah, c'est vrai que souvent, il y a des gens qui tiennent des stands, mais ils pourraient... ce serait bien s'ils étaient un peu plus nombreux, pas juste deux personnes. Ça leur permet eux aussi d'aller voir des confs et tout. Donc c'est
mais tout à fait. Ça peut être aussi intéressant de contribuer dans cette démarche aussi.
Et d'ailleurs, il y a l'appel à contribution des JDLL qui est passé. Donc, vous voulez tenir un stand, essayez de contacter les gens du logiciel en question, puis en leur dire, bah, j'aimerais bien essayer de voir si on peut avoir un stand au JDLL.
Ce serait bien. Ce serait sympa.
Ouais.
Passons à l'agenda.
Qu'est-ce qu'on a ? Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Alors, vous avez le premier contributelier de Grenoblois. Fini la consommation, passons à la contribution. Que vous soyez novice du code ou familier, ou novice du numérique, cet atelier vous propose de découvrir comment contribuer au logiciel et à la culture libre dans la convivialité d'un apéro partagé. Donc, c'est un atelier organisé par Framasoft. Donc, c'est sur inscription sur le Framaform. Le lundi 2 décembre de 18h30 à 21h à la Turbine Cop, 5 Esplanade Andry Farcy de Grenoble.
Café outils hors série, open agenda, comprendre les principes d'un agenda collaboratif en ligne éditoriale, charte de contribution, implication des contributeurs, contribuer de manière autonome à un agenda collaboratif via le service open agenda, diffuser et faire connaître un agenda. C'est à L'Oriole sur inscription le mardi 3 décembre de 9h30 à 13h30.
Frottons la boule de cristal. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Doctorant, Arcept, Fibre et Paquet.
Ah, c'est une chanson, ça.
Des mots qu'il faut rêver.
Ouais.
Ah, vas-y, chante.
Arcept, Fibre et Paquet, des mots qui font rêver. Ouais, spéciale dédicace à toi, Kota.
Technophile, il faut cesser l'essai des CMS.
Nerds. C'est lequel mon meilleur profil LinkedIn? Le gauche ou le droite? Ah, t'en as deux? Bien sûr, pas toi.
Codeur, Vim sous le sun en italique, et ce n'est pas problématique. Viens bien programmer. J'ai le cœur tout chaud.
Ah oui,
alors,
j'imagine.
Merci, Maître Belle. C'est elle est pas mal.
Atariste, on va se quitter en bon péterme.
Musicien, je suis pas trop sûr du micro.
Ouais. Alors notez que on aurait pu utiliser Peterm Res justement si on voulait être résident, si on voulait terminer en TSR. Mais c'était la semaine dernière qu'on
mais
en
oui.
a parlé. Et ouais.
Eh bien, sur ces belles paroles, merci aux éditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on prépare une nouvelle émission, peut-être avec des petits cadeaux, on ne sait pas.
Ah oui, bah oui,
c'est
parce
bientôt
que
Noël.
Proche. Oh là là.
En tout cas, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Salut.